Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu cries ? Un podcast d'Approche Culture et Territoire.
Dans ce nouvel épisode de Pourquoi tu cries, rencontre avec Alice Atenour, psychologue clinicienne qui travaille notamment à Marseille autour d'un dispositif qui met au cœur de sa pratique la médiation ethnoclinique, en partant des professionnels en lien avec la protection de l'enfance. L'occasion d'aborder avec elle une nouvelle manière de prendre en compte le trauma colonial.
Bonjour Alice Atenour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour le podcast de Pourquoi tu cries.
Merci de votre invitation.
Alors, on vous a invité dans le cadre du cycle que Approche Culture et Territoire organise avec la bibliothèque médiathèque de l'Alcazar autour du trauma colonial. Donc, dans un premier temps, en fait, pour vous relier à cette thématique, est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs auditrices qui vous êtes et quel est votre parcours ?
Alors, je suis issue d'une famille, notamment ma famille maternelle, très marquée par l'histoire coloniale. Un grand-père juif berbère qui a épousé une pied-noire en Algérie dans les années 30, ce qui les a amenés à quitter l'Algérie fin des années 30 et se retrouver bien entendu rattrapés par l'histoire d'une part des appartenances auxquelles mon grand-père, en particulier celle du judaïsme, avait tourné le dos. Et mon grand-père, ici en France, a été démis de ses fonctions en 40 et déchu de sa nationalité, comme tous les Juifs d'Algérie qui ont donc perdu la nationalité française pour retrouver le statut d'indigène du fait de l'abrogation du décret Crémieux qui leur avait donné la nationalité française en 1870. Donc voilà, l'histoire coloniale, elle est là dans cette famille-là. Elle est aussi présente d'une autre manière dans ma famille paternelle, où là, cette famille, elle est originaire du Champsaur. La branche dont je suis issue a pris le chemin du sud, d'abord à Risoul, et puis à Marseille, tandis que d'autres branches de cette même famille sont parties à la conquête de l'Ouest et pour arriver en Californie et être berger comme ils l'étaient, mais peut-être à la recherche de conditions de vie meilleures. Donc voilà, dans ma famille, il y a des colons, des colonisés, et ça crée plein de choses étranges dans ce rapport au monde qui est... Pour ma part, on produit beaucoup de pourquoi, beaucoup d'énigmes et beaucoup de questions.
Et à partir de quel moment ces questions vont se faire peut-être plus frappantes pour vous et comment elles rejoignent du coup ce que vous allez devenir et votre pratique ?
Ces questions, ça a été beaucoup en lien avec une quête de sens me concernant. À savoir que déjà, moi j'entendais mes grands-parents parler de l'Algérie sans que je comprenne ce que ça voulait dire. En même temps me disant, mais nous on était pour l'indépendance de l'Algérie, hein, de toute façon on était pour. Et d'ailleurs j'ai une tante maternelle qui est partie comme coopérante en Algérie. Donc tous ces éléments-là, je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Et donc ça m'a amenée à me plonger dans des questions. Et j'avais aussi la chance d'avoir une mère extrêmement militante, on va dire au Parti communiste, à la CGT. Et donc avec aussi des ressources, on va dire, au sens des lectures, mais aussi des ressources parce que ben, là aussi, il y avait des gens qui produisaient des récits autour de ce qu'ils avaient vécu, des gens plus âgés que ma mère même, autour de ce qu'ils avaient vécu dans les moments de résistance. Alors résistance, bien sûr, dans la guerre de 40, mais aussi résistance et soutien au FLN pendant la guerre. Donc j'ai entendu tout ça, et il a fallu que petit à petit, je trouve le chemin pour y donner un contexte. Donc, d'une certaine manière, j'ai eu affaire à beaucoup de témoignages, en premier lieu de mes grands-parents maternels, puis de plein de gens autour de moi. Donc, ces témoignages, ils étaient précieux, ils étaient denses en émotions, ils étaient denses en transmission, mais je ne comprenais rien. Donc, il a fallu que je les contextualise, et ça a fait partie de mon chemin. Après, ben, d'une certaine manière, ça m'a formée aussi en tant que clinicienne, puisque j'écoutais. J'écoutais tous ces témoignages. Et donc, ce qui m'a intéressée, c'était écouter. Et écouter non seulement ce qui était dit, mais ce qui ne l'était pas. Et donc, c'est comme ça que je me suis orientée vers la psychologie clinique et la psychanalyse. Et qu'au cours de ce chemin-là, j'ai rencontré des collègues, en particulier Hamid Salmi et Ibrahim Saïd, et plein d'autres collègues, parce que c'est un grand groupe où plein de personnes sont passées, où on a créé un dispositif de médiation ethnoclinique, et où là, quelque chose s'est renversé me concernant, c'est qu'il s'agissait de témoigner, accueillir des professionnels et travailler autour des appartenances, comme je viens de le faire me concernant. Travailler autour des appartenances, ça a impliqué que tout le monde témoigne, les professionnels comme les familles qu'ils accompagnaient. Et donc c'est comme ça que petit à petit on a créé ce dispositif et où quelque chose s'est renversé, parce que les professionnels ils ont l'habitude d'écouter et de questionner, mais ils n'ont pas l'habitude de témoigner. Donc moi j'avais entendu beaucoup de témoignages et j'ai été amenée petit à petit à témoigner. Et c'est comme ça que ce dispositif petit à petit s'est construit, avec la proposition en premier lieu de mon collègue Hamid Salmi autour de la présentation. L'idée étant que ce qui est fondamental, c'est que j'ai rarement vu à Marseille des familles qui ne sont pas concernées par l'histoire coloniale d'une manière ou d'une autre. Des fonctionnaires partis en Indochine, des militaires, des pieds noirs, bien entendu, enfin, voilà, des familles d'Italie passées de Sicile à la Tunisie, revenant à Marseille au moment de l'indépendance de la Tunisie. Enfin, voilà, tous ces éléments-là, ils sont tout le temps présents dans la présentation, déjà des professionnels. Quand après on va évoquer la situation de la famille, chacun de nous a mis en jeu, a engagé son témoignage et la présentation des fondements de sa propre construction. Et donc ça, c'est essentiel, me semble-t-il, dans ce dispositif. Et ça donne lieu à ce que mon collègue Saïd Ibrahim appelle l'humanisation. Au sens où nous ne sommes pas nés humains, nous le devenons, nous sommes construits dans un monde. Un monde avec une langue, une manière de nommer, une logique, des mythes, bien sûr, de fondation. Et tout ça, c'est ce qui nous construit.
Et ce dispositif, donc, il s'adresse en premier lieu à des professionnels. Comment il est perçu et comment a priori les personnes arrivent à se l'approprier ? Parce que j'ai l'impression que ça ne va pas de soi de se dire « je vais d'abord me regarder dans une pratique professionnelle » pour pouvoir accueillir l'autre, en fait.
Ça, c'est aussi un élément essentiel et c'est aussi pour ça que nous restons un dispositif clinique. Ce sont les professionnels qui eux-mêmes sont prêts à faire ce travail, qui viennent nous rencontrer, et ils font le pari, et ça c'est, je pense que c'est la vie, que justement ce dispositif va les soutenir et va leur permettre de dépasser des blocages dans un accompagnement d'un enfant, d'une famille. Pour nous, le mot enfant, bien entendu, il est à traduire, mais d'autre part, nous on ne reçoit jamais un individu seul, bien entendu, puisqu'on va travailler autour de cette personne, mais avant tout de son monde, en fait. Donc comment il est relié à une famille, à un village, à une langue, à une manière de se nourrir. Et donc c'est tous ces éléments-là, c'est un monde qu'on accueille. Donc déjà, il s'agit d'accueillir notre propre monde. Et ça, tous les professionnels ne sont pas prêts à le faire, puisqu'ils ont été fabriqués à l'inverse, à savoir prendre de la distance par rapport à leur propre construction. Et donc, y en a plein qui sont ravis de faire ce travail, et d'autres qui sont davantage sur la réserve. Et c'est comme ça. Tous les outils ne sont pas utilisables par tout le monde, et je crois que c'est normal. Après, ce dispositif, il permet aux professionnels de dépasser un certain nombre de malentendus. Il me semble important de préciser que la question de la traduction, c'est la traduction des logiques des mondes, donc des mondes qui nous ont construits chacun de nous en tant qu'humains, qui nous ont humanisés. Donc c'est accueillir tous ces mondes, les mettre en présence, traduire les logiques, mais c'est aussi accepter que dans la traduction, il y a une limite. C'est-à-dire, on n'est pas là pour réduire tous les malentendus, mais par contre, à les mettre en présence, alors, sans doute, et c'est ce qu'on peut observer, quelque chose d'autre se crée. Il va y avoir une autre dynamique qui va émerger de la séance.
Qui est l'enjeu du collectif, beaucoup.
Qui est l'enjeu du collectif et de la mise en présence de ce que nous appelons dans ce dispositif nos marmites, c'est-à-dire depuis qu'on est né, on cuit dans une marmite. Et donc, c'est le collectif de toutes ces marmites et l'enveloppe du groupe dans lequel nous travaillons, avec la présence du témoin du monde de la famille. Donc ce témoin-là, il a une place singulière parce qu'il a en commun au moins la langue de cette famille, qui peut être la langue du Vietnam, la langue de l'Algérie de l'Ouest, la langue... Bien entendu, la question des langues, pour nous, elle n'a rien à voir avec les cartes des nations, hein. Ça dépasse largement ces questions-là, puisque bien sûr, notre construction en France, c'est un pays, une langue, une centralité qui n'existe pas ailleurs. Et donc, il s'agit d'aller chercher de quelle région est cette famille, de quel groupe linguistique est cette famille, dans quel endroit de ce pays elle vit, puisque ça peut être très, très différent. Donc on va faire appel à ce témoin qui va avoir une place singulière, mais ce témoin lui-même, il peut aller chercher en lui les éléments de sa propre construction seulement si chacun de nous le fait et s'engage dans ce témoignage. Sans quoi, lui-même, il n'a pas les moyens d'aller chercher. Parce qu'il faut vraiment ce processus collectif pour que par association, ces éléments émergent. C'est-à-dire, ce ne sont pas des éléments qu'on a tout le temps à la conscience. Et même, ce sont plutôt, et le plus souvent pour chacun de nous, des évidences. Et donc, c'est aussi par le groupe que, dans la comparaison, dans l'association, on se rend compte que ce n'est pas du tout des évidences de manger à table avec des fourchettes, d'imaginer que le monde il est fait d'une telle ou telle manière, que nos découpages institutionnels, c'est tout à fait cohérent et logique, alors qu'il nous faut faire des années d'études pour comprendre de quoi il s'agit, et que souvent on ne comprend toujours pas, mais bon, voilà. Donc c'est tous ces éléments-là qui sont mis en présence.
Est-ce qu'à travers ce que vous observez dans le cadre de ce dispositif, émerge quelque chose de l'ordre de ce qu'on a appelé lors de ces conférences de trauma colonial, en fait ? Est-ce que ça reflète quelque chose qui sous-tend un petit peu ce qui se noue dans ces différents collectifs ?
D'une part, chaque monde qu'on va évoquer autour d'une famille, déjà, les parcours migratoires, ils sont directement en lien avec l'histoire de l'Empire colonial français. Bon, bien sûr, il y a des nuances. C'est pas le cas de tous les parcours migratoires, mais la plupart, c'est le cas. Première chose. Et deuxième chose, il y a aussi ce qui est le plus invisible, c'est les effets sur les professionnels, qui sont complètement insus. Et très très souvent, les marmites des professionnels sont marquées par cette histoire-là. Et ils peuvent aussi s'en rendre compte à ce moment-là, dans leur propre témoignage. C'est-à-dire, c'est pas possible que, si on parle de l'Algérie, 1962, 1945, 1830, enfin, c'est des dates, on peut pas on peut pas les ignorer, en fait. Hein. Même, ben voilà, moi j'en ai cité une tout à l'heure, le décret Crémieux, 1870, voilà, l'administration militaire avant, l'administration ensuite politique de l'Algérie. Donc, par exemple, ça, tout ça, ça a des effets très très forts. Dans l'installation des familles, des familles et des colons, et dans la manière dont on va repousser les personnes qui étaient sur ces terrains-là.
Et dans votre pratique en tant que psychologue clinicienne, mais peut-être hors de ce dispositif, c'est quelque chose aussi que vous retrouvez souvent dans les récits et dans les personnes qui viennent vous rencontrer. Est-ce que ça fait partie d'un, j'allais dire, d'un motif de consultation, ou est-ce que ça apparaît au fil de... De l'histoire de la personne?
Alors, le paradoxe, c'est que je suis identifiée de par mon exercice dans ce dispositif. Donc, des personnes viennent me rencontrer autour de cette question. J'ai un père ceci et une mère cela, ou moi-même, je viens de tel pays. Mais finalement, il me semble, en tout cas, que ça, c'est vraiment la partie émergée et visible. Mais justement, les traumas, ils apparaissent bien après, et ils sont complexes, et ils sont dans l'insu, notre monde de l'inconscient, en fait. Et bien sûr qu'ils émergent. Ils émergent dans des rêves, ils émergent dans des mots transmis, et qui ne se comprennent pas. Qui ne se comprennent pas parce qu'ils sont hors contexte. Donc il y a tous ces éléments-là, ou des mots qui ne sont pas traduits. Donc ben, il m'arrive très souvent de recevoir des personnes dont les parents parlent une langue, eux-mêmes répondent en français et comprennent le sens un peu global de la langue de leurs parents, et vont utiliser des mots qui ne peuvent pas être traduits. Et bien entendu, c'est souvent les mots les plus forts. Ce sont les mots qui sont chargés émotionnellement, de manière négativement ou positivement, peu importe, mais émotionnellement qui sont les plus forts. Et donc, ben, ce travail de traduction, il émerge d'une autre manière dans mon exercice clinique au cabinet, en fait. Et j'y suis sans doute particulièrement sensible.
Au-delà de votre parcours personnel, peut-être que dans tous les cas c'est imbriqué, mais peut-être au-delà de ça, qu'est-ce qui vous a poussé vers cette psychologie clinique-là? Et est-ce qu'il y a des dispositifs similaires sur lesquels vous avez travaillé ou dont vous vous êtes inspiré, etc.? Est-ce qu'en France c'est courant aussi de faire appel à ça, ou est-ce qu'on en est encore à quelque chose qui est mis de côté?
Ce qu'ont construit les collègues du courant de l'ethnopsychiatrie, c'est davantage des consultations de première intention, même si ça peut être en groupe, avec un traducteur, un interprète. Chacun va appeler d'ailleurs cette personne de manière différente, médiateur interculturel, expert culturel, enfin il y a plein de manières de l'appeler. Nous on l'appelle témoin parce que ben, il y a un témoin parmi d'autres. Ce qui est moins courant et qui est quand même spécifique à notre dispositif, même si des collègues s'en inspirent, c'est accueillir d'abord les professionnels et ensuite la famille avec les professionnels. Ça, c'est beaucoup moins courant, en fait. Et ça, pour nous, ça a été fondamental et ça a été vraiment un choix, au sens où l'origine de la famille ne peut pas être une spécialité. Ça, c'est pas possible, en fait. C'est comme si, d'emblée, la question des origines, ça serait un problème. Or, alors à ce moment-là, on a tous... enfin, pour le coup, c'est sans doute vrai. C'est-à-dire que ça nous donne en même temps une construction, une enveloppe, et une enveloppe qui nous limite. Alors peut-être, oui, de ce point de vue-là, on a tous ce problème. Mais par contre, ça ne peut pas être l'origine d'une famille qui est désignée comme étrangère, qui ferait entrer dans un dispositif de soins et de consultation. Pour nous, ça a été vraiment un choix important on a été d'accord tous dans le groupe. Parce que, pour le coup, la dimension de médiation, elle permet cette pensée en commun. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que, ben, bien sûr, d'abord les professionnels, quand ils viennent dans le premier temps où il y a les professionnels et le témoin, eux-mêmes, ils pensent autrement la situation, déjà. Et quand la famille est là, ben, la famille, elle amène tellement de choses sur son monde et des mondes qui sont a priori, quand on n'a pas l'espace justement dans les dispositifs premiers du travail social et du soin, quand les espaces ne sont pas ouverts pour ça, eh bien ces mondes-là, des familles, sont invalidés a priori. Il n'y a pas de savoir éducatif, il n'y a pas tout ça. Or, ben, y en a plein, bien entendu.
Donc ce serait un peu prendre conscience qu'on a tous nos marmites, en fait, que c'est pas lui, il est comme ça, donc on va s'en occuper comme ça, c'est un tout global, quoi, y compris en tant que professionnel.
Et oui, bien sûr. Et les professionnels se décalant de cette question de « je suis une personne fabriquée professionnellement, qui a une mission reliée à une institution et c'est dans ce cadre-là que je rencontre une personne. » Oui, c'est dans ce cadre-là. Mais c'est aussi avec ma fabrication. Et donc, la plupart du temps, ça n'est pas nécessaire de s'arrêter là-dessus, parce que ça se fait. La rencontre, elle a lieu, et le travail, et ben, qu'ils ont à faire en commun, ils le font. Mais il y a des moments où ça bloque. Et c'est peut-être là où la médiation ethnoclinique prend tout son sens.
Et du coup, les retours qu'on vous fait, c'est quoi? C'est qu'il y a un déclic à ce moment-là qui se joue aussi du professionnel et qui va changer sa pratique?
Et oui, c'est surtout que, en fait, le regard et le blocage tel qu'il l'a envisagé dans son cadre de référence, quand on sort de ce cadre-là de référence et on prend en compte justement les mondes, c'est un autre cadre de référence, alors il y a des ouvertures. Des ouvertures, c'est-à-dire la pensée est possible et elle est beaucoup plus large. Si on imagine qu'un enfant, il est porté par ses parents parce que l'autorité parentale conjointe, c'est le cadre légal qui fait que voilà, les enfants sont portés par leurs parents. Si dans un monde, et c'est le cas de nous tous d'ailleurs, bon, moi je me suis présentée pas seulement avec mes parents d'ailleurs, et même avec des ancêtres que je ne connais pas. Donc, si on élargit au monde, un enfant, il est porté par un monde, non seulement un monde au sens de personnes qui pourraient le porter avec leurs bras, mais aussi des références, en fait. Et c'est ce qui construit un enfant. Donc, si ces références sont invalidées d'emblée, ou s'il n'y a pas l'espace pour les faire émerger, ben, les parents, ils se retrouvent en difficulté. Et pour avoir travaillé longtemps en protection de l'enfance, j'ai entendu des parents dire à mes collègues travailleurs sociaux, puisque toi, tu sais comment il faut faire, prends-le. Parce qu'eux-mêmes, se sentant complètement impuissants face à ce qui leur était renvoyé, par exemple, par le juge des enfants et les collègues. C'est-à-dire, on n'élève pas un enfant comme ça. Ben, d'accord, mais alors, je ne sais pas quoi faire, moi. Et donc, la médiation ethnoclinique, elle permet de faire émerger tous les éléments qui sont présents dans la marmite des parents, au-delà des désordres repérés par les logiques institutionnelles, de la protection de l'enfance ou de l'école... qui ne sont que forcément des déficiences, en fait. C'est ça qui est très difficile.
Par rapport à tous ces enjeux et tout ce que vous recevez à travers cette pratique, qu'est-ce qui vous donne envie, vous, de crier, puisque nous sommes dans le... Dans l'émission, dans le podcast, Pourquoi tu cries?
Alors, j'ai été au croisement de quelque chose me concernant. C'est que très tôt, j'ai imaginé qu'il y avait des choses qu'on ne voyait pas, de l'insu. Et en même temps, j'ai été portée par tous ces récits que j'évoquais tout à l'heure, avec une mère très militante. Donc, cette question-là présente très forte de l'engagement et en même temps, la question de l'invisible qui m'a habitée, qui a fait que mon engagement, ça a été celui-là. Ça a été, à un moment donné, la construction d'humain dans un monde villageois, un monde, quel que soit le monde, il a une valeur inestimable, en fait, et incomparable, au sens où, justement, chacun de nous est construit dans des mondes, et le chemin, il est très différent, mais l'universalité, de mon point de vue, elle est dans cet après-coup-là. C'est après avoir tenu compte de tous ces chemins de fabrication que nous pouvons percevoir l'universalité, justement, de la construction humaine et la richesse de cette construction-là. Et je crois que c'est ce qui m'a amené à m'engager autant dans ce travail-là. Il me semble qu'on est en chemin, et ne serait-ce que quand moi j'ai commencé à travailler à construire le dispositif de médiation ethnoclinique avec mes collègues, parler de trauma colonial, c'était même pas envisageable, en fait. Même si c'était présent, mais ça n'était pas nommé comme tel. Donc, bon, voilà, le chemin, il est long, ou je sais pas, à l'échelle de la vie d'un humain, c'est 20 ans, c'est beaucoup, mais à l'échelle de l'humanité, bon, moi, je trouve qu'on est en chemin.
Ben merci, en tout cas, de nous avoir fait parcourir avec vous un bout de ce chemin. Et on vous dit à bientôt pour d'autres occasions et d'autres rencontres.
Merci à vous.
C'était Pourquoi tu cries, un podcast d'Approche, Culture et Territoire. Réalisation, Colline Charbonnier.